Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci, merci à celles et ceux qui restent mobilisés pour prendre soin des autres dans les hôpitaux, les cliniques, médecins, infirmières, paramédicaux, dans les établissements de soins pour personnes âgées, dans les commerces, les transports, les services de nettoyage. Merci de continuer à faire face dans des conditions aussi difficiles. En cette crise sanitaire sans précédent, déjà deux semaines de confinement en France et une tendance toujours à la hausse en termes d'hospitalisation et d'augmentation du nombre de cas de coronavirus. Une pandémie qui, en l'espace de quelques semaines, a placé le monde dans une incertitude absolue. Une partie du monde habituée à avoir des réponses rapidement, un monde qui se retrouve totalement déstabilisé par le doute. Aujourd'hui, des hommes et des femmes travaillent pour trouver des réponses dans l'exigence du tout, tout de suite, qui se heurte à cette réalité scientifique. Une expérimentation qui nécessite prudence, recul, deux impératifs difficiles à défendre, à tenir, à justifier face à une opinion publique soumise à un fort stress collectif en période d'urgence et face à un ennemi aussi invisible que déroutant. Un virus émergent et chaque jour on apprend de nouvelles choses à son sujet, mais aussitôt d'autres questions se font jour. Celles et ceux qui depuis des décennies travaillaient anonymement se retrouvent aujourd'hui sous le feu des projecteurs, sollicités, interrogés. Et c'est aujourd'hui sur les épaules de ces chercheurs, associés indéfectibles des cliniciens, des soignants, que reposent les espoirs immenses de tous les patients du monde comme de leur entourage. Des questions très nombreuses sur les stratégies pour limiter la contagion, sur les essais de traitement, sur un possible vaccin. Ces questions, nous allons les poser à nos trois invités. Dans un premier temps, nous donnerons la parole à deux membres du conseil scientifique, le professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris, chercheur coordinateur du réseau Reacting Inserm. Le professeur Yazdan Pana, également membre du nouveau comité analyse, recherche et expertise. On retrouvera également le professeur Arnaud Fontanet, chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Et dans un deuxième temps, nous donnons la parole au professeur Frédéric Tanguy, directeur du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur. Et puis, restez en forme en cette période très particulière, hein, vous le savez, parfois en contexte de confinement. Ce sera en fin d'émission avec le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. Notre séance d'activité physique en temps réel. Nouveau rendez-vous du lundi aujourd'hui pour l'équipement. Un petit tapis de sol et une tenue décontractée.
Priorité santé sur RFI.
Et cette actualité de crise sanitaire, vous en rendez compte maintenant à l'écoute de Priorité Santé, occupe l'essentiel de tous vos rendez-vous d'information. Mais on reste quand même fidèle à nos partenaires, comme au magazine Votre Santé, magazine panafricain, dernier numéro consacré aux maladies vasculaires. On est en ligne du Togo avec le directeur scientifique de ce dernier numéro, professeur Moufou Bello, bonjour. Professeur Bello, bonjour.
Oui, bonjour, Madame Paré.
Alors, compte tenu de l'actualité, on n'a hélas que quelques petites minutes à vous consacrer. Vous êtes chef du service de neurologie au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Professeur Bello, juste quelques minutes pour que vous nous présentiez cette initiative Stop à l'AVC en Afrique.
Oui, bonjour. Je voudrais vous remercier d'abord et rendre hommage au professeur Amadou Gallo Diop de Dakar qui a fait un appel en 2019 pour que les neurologues africains, qu'ils soient sous la bannière de la Ligue franco-africaine contre les AVC ou de l'African Stroke Association, décrètent le mois d'avril comme le mois dédié aux accidents vasculaires cérébraux. C'est dans ce cadre que nous en appelons à la conscience de nos confrères pour que des séances de sensibilisation soient organisées partout en Afrique à travers des émissions radio et télé compte tenu du contexte actuel. Quand cette pandémie sera donc maîtrisée, nous pourrons aller de nouveau dans les communautés pour continuer le dépistage des facteurs de risque des AVC. Dans la salle 18e édition, le magazine Votre Santé, édité à Dakar, va inviter la population à lire différents articles qui concernent les maladies cardiovasculaires, entre autres les AVC. Alors, cela m'amène à rappeler les signes qui sont une déformation du visage avec déviation de la bouche d'un côté, une paralysie totale ou partielle de la moitié du corps, des troubles de la parole. Nous pouvons également avoir des signes d'alerte tels que les troubles de l'équilibre, des maux de tête intenses et inhabituels de la tête avec une baisse de la vision. Alors, qui est exposé aux troubles et qui est exposé à faire un AVC de la conception jusqu'à la vieillesse, chacun de nous est à risque de faire des AVC et cela nous amène à rappeler les facteurs de risque principaux dont l'hypertension artérielle qui est le tueur en chef et qui évolue à bas bruit, sans symptômes, sans.
Et voilà, ces facteurs de risque, bien évidemment, question très importante de continuer à suivre les autres pathologies, même en cette période de pandémie. On vous remercie beaucoup, hein, professeur Mofubello, cette invitation dans Priorité Santé. Hélas, trop peu de temps, on renvoie au numéro 18 de votre Santé Magazine.
RFI à Lomé, 91.5 FM.
Rechercher coronavirus, un sujet qui pourrait nous occuper pendant des heures, énormément de questions forcément, avec à la fois le souci de rester clair dans le propos, hein, d'expliquer le mieux possible, parce que ce que l'on ressent aujourd'hui, c'est vraiment que la population a besoin de réponses, avec parfois d'ailleurs un décalage entre les attentes et ses réponses. On a l'impression qu'on n'est pas toujours sur la même rythmique. Éclairage sur l'évolution de la pandémie, les stratégies engagées avec vous, professeur Arnaud Fontanet, bonjour. Vous êtes chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Réponse sur les traitements employés, la situation des patients qui développent des complications avec vous, professeur Yazdan Pana, bonjour.
Bonjour.
Chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris, chercheur et coordinateur du réseau Reacting Inserm. Alors, si cet entretien est enregistré, c'est pour une raison très simple, hein, parce que vous êtes tous les deux membres du conseil scientifique auprès de la présidence de la République. Et à l'horaire précis de notre émission, eh bien, vous serez en session de travail. Professeur Fontanet, on entend, c'est d'ailleurs ce qui a été dit par le Premier ministre Édouard Philippe samedi, vous étiez à ses côtés lors de la conférence de presse. En fin de semaine prochaine, certaines régions de France vont certainement atteindre le pic de l'épidémie. Pourquoi et comment le sait-on ?
Alors, on s'appuie pour ces estimations sur des modèles mathématiques qui nous permettent de projeter sur les semaines à venir le nombre de patients, connaissant maintenant un petit peu mieux quelle est l'évolution typique de ce qu'on appelle l'histoire de la maladie, entre le moment où vous êtes infecté, le moment où vous allez développer des symptômes, qui va être en moyenne 5 jours plus tard, puis quand vous développez des symptômes, typiquement vous faites une pneumopathie pour les formes les plus sévères, c'est-à-dire à peu près 20% des patients. Cette pneumopathie va évoluer en une semaine vers la guérison pour la très grande majorité de ces patients, mais une fraction limitée, 5% des personnes qui ont des formes cliniques au total, va évoluer vers une forme plus grave, et donc là on est à la 3e semaine. Et c'est éventuellement le moment où ces patients vont devoir être admis dans des services de réanimation. Donc sur cette connaissance de l'évolution de la maladie, et là je vous ai fait évidemment le parcours le plus péjoratif, hein, celui qui aboutit à la réanimation, on peut projeter à partir du nombre d'admissions dans les hôpitaux quels seront les besoins des services de réanimation, ce qui est aujourd'hui vraiment le critère qui est le plus important pour nous, parce que c'est là où les risques de saturation peuvent se produire.
Professeur Yazdan Pana, est-ce que les soignants ont aujourd'hui une meilleure connaissance du profil de ces patients qui développent la forme grave du Covid-19, ou y a-t-il d'ailleurs plusieurs formes graves ?
Oui, je pense que par rapport au début de l'épidémie, on commence à mieux comprendre. En gros, si vous voulez, il y a deux formes graves. Tout d'abord, les personnes qui finalement s'aggravent très progressivement pour se retrouver en réanimation. Et ces personnes-là, en général, c'est les personnes de plus à risque, les personnes âgées, les personnes qui ont des comorbidités. Et après, vous avez un deuxième groupe de patients, c'est des gens qui, au départ, font des formes qui ne sont pas des formes très graves. Et entre le 7e et le 10e jour, il y a une aggravation de la maladie avec une pneumonie et éventuellement passage en réanimation. La différence de ces deux groupes, c'est que dans ce deuxième groupe, C'est plutôt l'inflammation très importante qui est à l'origine de ces pneumonies et de ces formes graves. En gros, l'organisme essaye de lutter contre le virus et crée une inflammation, et cette inflammation est à l'origine de l'aggravation.
Alors là, on parle des formes graves, professeur Yazdan Pana. Nous avons un auditeur du Cameroun qui nous demande « Lorsqu'on entend parler de guérison naturelle dans plus de 80% des cas, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est une rumeur ?»
Non, non, c'est tout à fait vrai. Il ne faut pas oublier que entre 80 et 85% des personnes font des formes qui ne sont pas graves. Et c'est des formes qui guérissent spontanément, sans aucun traitement, et qui n'évoluent pas vers une pneumonie.
Et justement, certains s'inquiètent des symptômes. Toujours avec vous, professeur Yazdan Pana, on a un auditeur qui s'appelle Kassamouma, il est en République démocratique du Congo, il nous demande comment est-ce qu'on distingue une toux normale de la toux du Covid-19 ?
Par contre, là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de différence. Ouais. Hein. C'est un peu la difficulté. C'est que les signes de Covid ne sont pas très spécifiques de Covid. Hein.
Il y a toujours des questions, professeur Arnaud Fontanet, sur l'incubation, la contagiosité, la transmission du virus. Il y a des choses qu'on sait, d'autres qu'on ne sait pas. Boris, par exemple, hein, là encore, c'est vraiment du concret. Professeur Fontanet, il y a Boris qui nous demande quelle est la durée de vie du virus sur une poignée de porte.
Alors c'est une question effectivement qui nous préoccupe tous, puisqu'on se demande quel est le risque associé avec toucher des objets qui auraient pu être contaminés par des postillons ou par les mains elles-mêmes contaminées d'un patient. Et c'est vrai que cette transmission manuportée, hein, c'est ainsi qu'on l'appelle, peut contribuer à la circulation de ce virus. Alors les données dont on dispose, elles sont pas forcément très faciles à interpréter. Il y a plusieurs études qui ont été publiées maintenant avec ce nouveau coronavirus qui indiquent des durées qui peuvent varier entre 3 heures et quelquefois 1 jour, 2 jours. Après, il faut vraiment relativiser parce que tout dépendra de la concentration du virus et il se peut tout à fait que les concentrations de virus après quelques heures soient tellement faibles que cette transmission n'est plus possible. Et il faut aussi voir quelles sont les conditions dans lesquelles ces expérimentations ont été faites et à quel point est-ce qu'elles peuvent reproduire des conditions naturelles. Donc le message ici, il est vraiment de dire, oui, il est très important de se laver très régulièrement les mains. Ça, c'est absolument essentiel dans la prévention de ce virus, comme pour beaucoup d'autres virus respiratoires. Mais de se dire, est-ce que ça va être quelques heures, plusieurs jours, c'est finalement pas le plus important. C'est vraiment, lavez-vous les mains très régulièrement et évitez de porter vos mains au visage, à la bouche, au nez, aux yeux, qui peuvent être des portes d'entrée si vous avez touché des surfaces contaminées.
Ces gestes barrières qu'on répète depuis les premières semaines. Professeur Yazdan Pana, quand on s'intéresse justement à ce genre de maladie, on distingue plusieurs choses. Alors, c'est pas forcément évident pour les auditeurs. Il y a d'un côté le virus, la charge virale, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de virus, hein, je résume vraiment pour le grand public, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de virus dans l'organisme, et puis après ce que peut déclencher ce virus. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que dans le cas du Covid-19, il y a un moment où les deux se séparent, il n'y a plus besoin forcément d'avoir beaucoup de virus dans le corps pour rester malade?
Oui, tout à fait. En fait, une des spécificités de Covid et de cette maladie et de ce virus chez les patients, c'est qu'on voit des formes extrêmement inflammatoires. C'est quelque chose, par exemple, qu'on voit pas du tout avec la grippe. Cette hyperinflammation. Et en fait, le virus est à l'origine de la création d'une inflammation. Cette inflammation permet parfois au corps humain de se débarrasser de virus, mais cette inflammation elle-même est à l'origine de beaucoup de dégâts. Et c'est la raison pour laquelle des pistes thérapeutiques actuellement sur lesquelles on travaille, c'est d'essayer d'avoir des traitements pour lutter contre cette inflammation.
Ça veut dire que l'inflammation, elle est très agressive. Elle peut créer des lésions comme des blessures dans les poumons. Est-ce que ça se voit, par exemple, à la radio ou au scanner?
Oui, oui. Alors après, c'est très compliqué de savoir si ces lésions sont liées au virus ou à l'inflammation. Mais effectivement, cette inflammation peut être à l'origine des lésions, notamment des lésions pulmonaires.
Alors bien sûr, professeur Fontanet, quand on parle des formes graves, on se pose des questions sur le risque, on va le dire concrètement, le risque de mourir, on parle de létalité en termes scientifiques. Grâce à Brazzaville, nous demande qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifie qu'en Allemagne, le nombre de décès soit plus faible que d'autres pays, par exemple, si on compare à l'Italie, à la France ou à l'Espagne.
Alors, Pour l'instant, ce qui est avancé, hein, mais qui méritera d'être confirmé, c'est que d'une part, on sait que les Allemands ont beaucoup testé, donc ils ont beaucoup dépisté de personnes qui avaient en fait des formes très bénignes de l'infection, voire de la maladie, et que de fait, ces personnes-là ont eu des évolutions spontanément favorables en grand nombre. Donc ça pourrait expliquer pourquoi ils ont un taux de létalité, donc une proportion décédée parmi les infectés, si faible comparé à d'autres pays où, par exemple, en France, les tests sont aujourd'hui réservés à des personnes qui font des formes sévères de la maladie, où on veut confirmer chez des terrains à risque, hein, des gens qui auraient des comorbidités comme un surpoids, une hypertension ou un diabète, le diagnostic, parce que c'est essentiel dans la prise en charge. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Une autre partie de la réponse, c'est que les Allemands ont peut-être démarré un petit peu plus tard comparé à d'autres pays leur épidémie, mais c'est que de quelques jours seulement, hein, dont on parle. Et bien sûr, pour des pays qui ont démarré plus tard en Europe l'épidémie, ils ont vu ce qui s'était passé en Italie, puis en France et en Espagne, et ils ont un peu plus de temps pour se préparer. C'est tant mieux pour eux, parce que la lutte qu'on est en train de mener aujourd'hui, notamment en France, pour avoir des capacités d'accueil en réanimation pour faire face à l'afflux de patients, eh bien eux, ils ont pu l'anticiper un peu mieux. Donc on peut aussi s'attendre à que pour ces pays-là, la prise en charge soit plus facile, parce qu'ils ont eu un peu de répit comparé à des pays très touchés comme l'Italie, la France et l'Espagne.
Ils avaient aussi, professeur Fontanet, davantage de services de réanimation, de services justement pour accueillir les patients en réanimation.
Alors, pour l'instant, ils n'ont pas encore eu besoin de les mobiliser.
Hein. Oui, puisqu'il y a même des patients français qui sont accueillis, tout à fait.
Français. Mais c'est ce que je disais. D'une part, il y a effectivement, entre les différents pays, hein, si vous comparez les pays européens, il y avait des capacités d'accueil en réanimation au départ qui étaient différentes entre les pays. Mais surtout, ce travail qu'on fait d'anticipation, que l'on fait aujourd'hui en France, mais à marche forcée, où on va mobiliser des lits dans des services de réanimation pédiatrique, par exemple, en post-opératoire, des lits qui étaient servis pour la partie de réveil post-opératoire qui maintenant se transforme en réanimation, des lits du privé qu'on est allé chercher, ben tout ce travail, il est fait maintenant partout en Europe parce que les pays voient bien ce qui se passe dans les pays les plus touchés et veulent anticiper.
Alors on va revenir bien sûr tout à l'heure avec vous, professeur Fontanet, sur la distanciation sociale, hein, la prévention, le confinement. Pour quelle durée? Parce qu'on se pose forcément la question. Et qu'est-ce qu'il faudra avant d'imaginer d'en sortir? Professeur Yazdan Pana, comme en témoignent beaucoup de questions de nos auditeurs, ce qu'attend le plus grand nombre, c'est bien sûr des espoirs en termes de traitement, puisque pour l'instant, eh bien, ce n'est pas le cas. Des essais sont en cours un peu partout dans le monde, en Europe, en France, le programme Discovery. Alors, professeur, pour expliquer aux auditeurs, les chercheurs travaillent à la fois sur des médicaments qui existent et d'autres travaillent sur des nouveaux produits.
Oui, exactement. Il faut savoir déjà qu'il y a des produits, des molécules contre le virus. Donc, pour les molécules contre le virus, il y a des produits qu'on connaissait déjà pour d'autres maladies, le VIH, l'Ebola, le paludisme, etc., dont on s'est rendu compte qu'ils peuvent marcher sur le Covid, qu'on est en train d'évaluer. Et après, ça prendra plus de temps. Il y a des molécules contre le virus qui sont à des stades beaucoup plus précoces. Et en parallèle, comme je vous ai dit, il y a aussi beaucoup d'inflammation dans cette maladie. Donc il y a aussi des produits qu'on utilise contre cette inflammation.
Professeur Yazdan Pana, même si on ne donne pas de faux espoirs, est-ce qu'il y a déjà des pistes prometteuses? Est-ce qu'il y a déjà des produits, on va dire, qui sont davantage privilégiés que d'autres en termes de résultats? Ou c'est trop tôt pour le dire?
Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites en Chine notamment, qui est plus avancée et qui ont déjà évolué pas mal de produits. Malheureusement, il ne sort pas des choses extrêmement encourageantes pour le moment.
Impossible de parler de traitement sans citer le nom d'un produit, hydroxychloroquine. D'ailleurs, nos auditeurs nous posent énormément de questions, hein, parce que forcément, les antipaludiques, c'est très connu en Afrique. Professeur Yazdan Pana, pas question ici d'entrer dans la polémique. Qui a raison, qui a tort, fallait-il, ne fallait-il pas? Mais quand nos auditeurs nous demandent de manière très simple, est-ce qu'il faut en prendre, hein, parce que c'est tout simplement comme ça que ça se pose, et d'ailleurs, ils parlent, eux, de chloroquine et non pas d'hydroxychloroquine, qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour les éclairer?
Non, je pense qu'il faut faire très attention, parce que pour l'instant, les données qu'on a sur la chloroquine, c'est uniquement des données in vitro, dans le tube. Mmh. Il y a très peu d'études chez l'homme qui montrent une efficacité. Alors, il y a des gens qui disent, mais bon, même si ça marche pas, je préfère prendre au moins, si ça marche, ça marcherait. Oui, mais il faut faire attention, les médicaments comme l'hydroxychloroquine et chloroquine, peuvent avoir aussi des problèmes de tolérance. Donc, de prendre de manière très importante, alors qu'on ne sait même pas si ça marche, ça peut être à l'origine des problèmes de toxicité.
D'autant plus qu'on peut aussi, quand on est dans certaines régions du monde, être face à des médicaments falsifiés qui peuvent carrément être des poisons. Donc, il faut vraiment faire attention, ne pas en prendre comme ça, parce que même si c'est donné, par exemple, dans certains pays d'Europe ou même aux États-Unis, c'est donné même au Sénégal, hein, puisqu'il y a une étude qui est lancée, c'est donné par des médecins en milieu hospitalier, c'est pas acheté comme ça au marché.
Non, ça, il faut faire très attention, notamment... Il faut faire une électrocardiogramme, il faut être sûr qu'on n'a pas de problèmes cardiaques, parce que c'est une molécule qui peut avoir des effets cardiaques, sachant que le virus de Covid peut aussi impacter sur le plan cardiaque. Donc vraiment faire attention à l'automédication avec ces produits-là.
Bah oui, parce qu'on le voit avec cette question de Kalilou qui est à Bamako, il nous demande, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir recours à la chloroquine? Apparemment, il a déjà sa petite idée, puisqu'il dit... Quelle est la dose à ne pas dépasser? Alors là, je pense qu'il faut lui faire une réponse à Kalilou qui nous demande quelle dose à ne pas dépasser. On va dire que certainement, c'est de ne pas commencer, en tout cas pas si on n'est pas malade et en tout cas, si on n'est pas allé voir un médecin, professeur Yazdan Pana.
Je pense qu'il faut dire à Kalilou que ce n'est pas à lui de déterminer la dose, qu'il faut absolument qu'il aille chez le médecin. C'est des médicaments qui peuvent être dangereux, surtout pas d'automédication.
Ce qu'on voit en tout cas actuellement, professeur Yazdan Pana, c'est qu'on assiste à une vraie confrontation entre l'urgence et la rigueur scientifique. C'est ce qu'a aussi dit le professeur Françoise Barré-Sinoussi, hein, chercheur, prix Nobel de médecine. Vous sentez, vous, cette pression?
Oui, les gens ont besoin d'espoir. Mmh. Ils veulent qu'on leur dise tout de suite qu'il y a un traitement. Malheureusement, on ne peut pas le dire. Et je pense donner cet espoir, alors que ce n'est pas fondé, ce n'est pas ce que les scientifiques doivent faire. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens.
Une pression pour trouver des réponses tout à fait humaines. On peut bien le comprendre, hein, surtout quand on a des proches qui sont malades ou qu'on n'en peut plus de rester enfermé. Ça concerne aussi professeur Arnaud Fontanet, ces décisions qui pèsent depuis 2 semaines complètes maintenant sur le quotidien des Français, beaucoup plus par exemple en Italie, et puis ça commence aussi dans pas mal de pays en Afrique. Je parlais bien sûr du confinement. Les gens se demandent combien de temps ça va durer. Et peut-être plus simplement aux scientifiques, on peut demander c'est quoi l'indicateur qui va être déterminant pour prendre une décision en la matière?
Le confinement et la sortie du confinement, elle va dépendre en fait des situations pour lesquelles le confinement a été décidé. Si je prends la situation de la France, le confinement a été décidé donc autour du 15 mars parce qu'on voyait un afflux massif de patients vers des réanimations dans les régions les plus touchées par l'épidémie. C'était le Grand Est et puis ça commençait à être l'Île-de-France et un peu les Hauts-de-France. Et il fallait bloquer cet afflux en anticipation d'une possible saturation 2 à 3 semaines plus tard. Donc pour bloquer l'afflux, on a décidé en France de mettre en place ce confinement. Et les résultats, on les verra, je l'espère, dans le courant de la semaine qui débute maintenant et qui nous permettra de voir le nombre d'admissions dans les lits de réanimation diminuer dans les régions qui ont été les plus touchées. Ça, on le verra, on ne peut pas encore, ça dépend évidemment de la qualité avec laquelle le confinement a été suivi, ce qui n'est pas toujours très facile. Et ça, c'était, si vous voulez, la situation un peu critique dans laquelle se trouvait la France, parce que déjà des patients affluaient en réanimation. Il y a d'autres pays qui n'ont pas encore d'épidémie, mais ont décidé de mettre en place le confinement de façon un peu préventive, parce qu'ils ont vu ce qui s'est passé en Italie, ils ont vu ce qui s'est passé en Espagne et en France, et ils se disent, on n'a pas envie de se retrouver dans cette même situation, et du coup, ils mettent un confinement, j'ai envie de dire, pour limiter d'emblée la circulation du virus sur le territoire. Alors c'est effectivement une mesure qui va permettre de ralentir et peut-être de se préparer un petit peu mieux. Parce que le confinement, finalement, il vous apporte une solution sur le court terme, mais ce n'est pas une solution de long terme. Le jour où vous retirez le confinement et le virus se remet à circuler, puisque personne n'a été infecté, vous vous retrouvez un peu dans la situation où vous étiez au moment où vous avez commencé le confinement. Donc, dans ces pays qui ont mis en place un confinement alors qu'ils n'avaient pas de situation urgente par rapport à leur lit de réanimation, c'est du temps gagné pour se préparer et pour se dire, bon, bah maintenant, avec ce confinement, on fait monter en puissance notre capacité à faire des tests diagnostiques, on prépare nos équipes de logistique pour aller identifier les cas, les contacts, les mettre en isolement, on prépare les lits d'hospitalisation, éventuellement les lits de réanimation, et on lèvera progressivement le confinement quand on sera prêt, et parce qu'on sera capable de faire face à ce moment-là à une augmentation du nombre de cas. Donc, vous voyez, c'est deux situations différentes. Et qui feront que les critères de levée de confinement sont différents.
Excusez-moi, professeur Fontanet, vous avez dit le mot test. Est-ce qu'il va falloir passer par un dépistage massif en France pour lever le confinement?
Alors, il y a deux types de tests qui peuvent être pratiqués. Il y a des tests qui vous disent si vous avez une infection aiguë. Hein. C'est le test qu'on fait avec ce qu'on appelle une PCR. C'est le prélèvement que vous faites dans le nez et dans la gorge et qui vous donne tout de suite ce résultat. Et ça vous dit je suis malade, infecté et il faut que je m'isole. Il y aura d'autres tests qui vont être disponibles assez rapidement, hein, je pense dans le courant du mois d'avril, et plutôt fin avril, et ces tests, ils vous diront est-ce que vous avez été infecté ou pas. C'est des tests qui reposent sur le dépistage des anticorps dans le sang. Mmh. Les anticorps, vous les faites quand vous avez été infecté, et on peut imaginer, sur le court terme, que des personnes qui ont des anticorps seront protégées pour ce coronavirus comme ils le sont pour d'autres coronavirus. On n'a pas encore des données solides là-dessus, mais c'est le scénario le plus probable. Donc on peut espérer qu'avec ces différents tests, on puisse réfléchir à notre stratégie de sortie de confinement. Je ne dirais pas que le test massif sera une solution, parce que le test PCR, qui est celui qu'on utilise aujourd'hui, vous donne une réponse à un instant donné, mais il ne vous dit en rien si vous ne serez pas infecté 3 jours plus tard ou 5 jours plus tard. Donc vous n'allez pas répéter des dépistages massifs en permanence en population. Je pense que l'utilisation du test, elle sera plutôt à partir du moment où on lèvera le confinement, où le virus circulera beaucoup moins en population française, quand on sera prêt avec ses capacités de test, on lève le confinement. Et là, quand des foyers réapparaîtront, parce que des foyers réapparaîtront à partir de cas qui étaient passés inaperçus, d'importations d'étrangers, je ne sais pas, et ben là, on ira sur place, on testera immédiatement, on mettra en isolement, on regardera les contacts, un peu ce qu'on faisait avant le début de accélération d'épidémie.
Oui, mais pour les personnes fragiles qui n'ont pas été contaminées, ces personnes ne vont pas vouloir s'exposer en ressortant du jour au lendemain.
Quand on parle de levée de confinement, on parle de levée de confinement très progressif. Les personnes qui sont vulnérables, les plus de 65 ans, les personnes qui ont des comorbidités, etc., on peut probablement des modalités de sortie de confinement beaucoup plus prudentes que des gens qui, s'ils étaient infectés, feraient des formes moins sévères. Mais de toute façon, ce sera quelque chose qui sera progressif, gradué, et qui sera épaulé en parallèle par la disponibilité de tests qui nous diront, le cas échéant, un nouveau cluster s'est déclaré dans tel endroit et à nouveau il faut recommencer à reprendre des mesures d'isolement très strictes. Mais c'est des choses qui vont se faire de façon très progressive et graduée.
Professeur Fontanet, aujourd'hui, est-ce qu'on commence à vraiment bien connaître ce Covid-19 ou on en est encore d'une certaine manière au début ?
Tout dépend, la gamme de choses qu'on peut apprendre sur ce virus est immense, donc on est d'une certaine façon au début. Après, si c'est pour de quoi a-t-on besoin, par exemple, pour le contrôle de cette épidémie, nos connaissances, elles ont quand même bien évolué, au sens où on a une idée assez précise de ce qu'est la durée d'incubation, de la période de contagiosité, quand est-ce que les personnes sont contagieuses, des manifestations cliniques, comme l'a expliqué le professeur Yazdanpana. Il y a des questions qui se posent encore sur combien de temps on est contagieux après la fin de la maladie, puisqu'on retrouve chez des personnes qui ont guéri cliniquement et qui n'ont plus de symptômes, quelques jours après, on peut retrouver encore du virus dans la gorge, on peut trouver du virus dans les selles, mais on pense que c'est des concentrations qui sont faibles, qui sont peu infectantes, mais c'est des choses qu'il faudra tout de même préciser. Sur le mode de transmission, on reste sur l'idée que c'est une transmission qui se fait essentiellement par des gouttelettes, donc les mesures barrières sont importantes, avec une transmission manuportée, donc contact avec des surfaces contaminées, on se lave les mains très régulièrement. Il y a des questions qui se posent sur est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une transmission par ce qu'on appelle des aérosols, qui sont donc des particules beaucoup plus fines, qui peuvent aller au-delà du mètre 50 qu'on recommande pour se protéger de ce coronavirus. Ce sont des choses qu'on étudie évidemment de très près.
Professeur Yazdanpana, aujourd'hui en tant que médecin, chercheur, clinicien, qu'est-ce qu'il vous faut comme réponse pour mieux soigner les patients qui font des formes graves de Covid-19 ?
Je pense que ce qu'il nous faut, c'est un traitement. Si on avait un traitement, je pense que ça rendra les choses beaucoup plus faciles. Je pense aussi que si on avait pas seulement un traitement pour guérir, mais aussi un traitement pour prévenir. Et aussi, ce qu'il nous faudrait, c'est un vaccin. Donc, je pense que ça, c'est des outils qu'on n'a pas encore, mais j'espère avec le temps, on aura. Alors, pour le traitement, ce sera probablement plus rapidement. Pour le vaccin, ce sera un peu plus long. Et en attendant, je pense que les interventions qu'on met en place, le confinement nous permettra, j'espère, de sortir, en tout cas temporairement, de cette crise. Je pense que le fait de dépister, de faire des tests à des gens quand on sortira du confinement pour éviter que des foyers partent, ça sera important.
important de tester davantage donc à l'avenir. Le vaccin, bien sûr, on va en reparler dans quelques secondes avec le professeur Tanguy. On vous remercie tous les deux d'avoir bien voulu nous consacrer un peu de votre temps précieux dans Priorité Santé. Professeur Yazdan Pana, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Bichat à Paris et chercheur à l'INSERM. Professeur Arnaud Fontanet, chef de l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur. Et on espère vous retrouver bientôt pour donner d'autres réponses à nos auditeurs particulièrement en Afrique, puisqu'il y a vraiment beaucoup de questions à la hauteur de ce défi pour les populations et pour les systèmes de santé. Merci à tous les deux.
RFI.
Et on continue de parler recherche et coronavirus dans Priorité Santé, ses stratégies, contrôle de l'épidémie, prise en charge des patients, expérimentation. Et face à une crise de cette ampleur, on se tourne bien sûr, on vient de le dire, vers ce qui reste l'arme irremplaçable contre les infections et les maladies contagieuses, les vaccins. Pour en parler, on vous retrouve, professeur Frédéric Tanguy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur. Alors on entend bien pression pour trouver un traitement fiable, pression également du côté des chercheurs qui travaillent sur ces vaccins avec de par le monde, professeur Tanguy, de nombreuses initiatives. Alors est-ce que ces projets en Amérique, en Europe, en Asie, c'est entouré d'un secret complet ou est-ce qu'on communique entre les chercheurs, entre les équipes?
Alors non, les projets ne sont pas entourés d'un secret complet, c'est-à-dire qu'on sait à peu près qui fait quoi. Ensuite, on ne se parle pas non plus au quotidien et chacun avance dans son coin. Les stratégies sont différentes, mais à peu près toutes basées sur les mêmes antigènes du virus Covid-19.
Alors à l'Institut Pasteur, pour votre part, professeur Tanguy, qu'est-ce qui est en cours?
Donc à l'Institut Pasteur, on a démarré dès janvier un projet de vaccination à l'aide d'une plateforme vaccinale qu'on a développée depuis près de 20 ans ici, qui s'appelle le vaccin contre la rougeole, recombinant, c'est-à-dire qu'on fabrique des vaccins, des virus vaccinaux de la rougeole qui expriment des antigènes additionnels, ici en l'occurrence des antigènes du SARS-CoV-19. C'est une plateforme qui a été éprouvée parce qu'elle est déjà largement testée en essai clinique. Par exemple avec un vaccin contre le chikungunya qui est actuellement en essai clinique de phase 3, donc très avancé, mais également d'autres. C'est une plateforme avec laquelle nous avions déjà fabriqué un vaccin contre le SARS-1 il y a une dizaine d'années, qui s'était révélé très efficace à protéger dans les modèles animaux et qui naturellement n'a pas été développé en essai clinique parce que l'épidémie SARS-1 a disparu très rapidement. Donc nous avons lancé ce programme très très vite, à partir de début mi-janvier, et notre projet a été sélectionné par le CEPI, qui est la coalition pour la mise au point des vaccins contre les maladies émergentes. Donc il fait partie des 8-9 projets sélectionnés par le CEPI, et qui sont donc largement financés, poussés en avant, et nous travaillons donc avec des industriels pour le développement industriel des produits.
Alors on parle de développement et face à ça, il y a une forme d'impatience de l'opinion, on le comprend. Albin en République centrafricaine demande cette question très très directe, on va dire, professeur Tanguy, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas un vaccin tout de suite?
Parce qu'un vaccin, ça ne se trouve jamais tout de suite. Mmh. On peut dire que classiquement, la mise au point d'un vaccin, ça prend de 6, 8 à 12, 15 ans. Généralement, et les étapes, alors il y a des étapes de recherche qui sont très longues, parce que tant qu'on ne sait pas comment ça marche, il faut qu'on trouve les antigènes, il faut qu'on trouve le moyen de protéger, il faut qu'on se garde, qu'on se prévienne les effets délétères que peut avoir un vaccin, il faut qu'on mette tout ça au point, qu'on fasse des modèles animaux, puis ensuite il faut qu'il y ait un développement industriel, de la fabrication industrielle dans les bonnes pratiques de laboratoire, et ça aussi c'est très long, et ensuite il faut mettre en place des essais cliniques de phase 1, de phase 2, de phase 3, qui tous prennent des années. En l'occurrence, ici, on travaille avec une plateforme qui a été prouvée, donc dont on sait qu'on peut aller plus vite. La preuve, c'est qu'on a déjà deux candidats vaccins en cours de test chez la souris et bientôt terminés, et dont la production industrielle est en train aujourd'hui de commencer déjà. Donc on accélère les procédures, les agences réglementaires accélèrent les procédures d'évaluation des dossiers et on peut aussi chinter certaines étapes cliniques. Mais enfin la phase 1 de tolérabilité et de sûreté est absolument nécessaire et fondamentale. Et quand cette phase est faite, est réalisée, par contre, on peut peut-être, comme ça avait été fait lors du test d'un vaccin contre Ebola en Guinée, on peut franchir directement de la phase 1 vers une phase 2-3 sur des individus à risque d'attraper la maladie. C'est le seul moyen d'accélérer.
Professeur Tanguy, est-ce qu'il s'agit pour votre propre vaccin chez Pasteur d'un vaccin vivant atténué ou d'un vaccin inactivé? C'est important de le demander parce que un vaccin vivant, on ne peut pas l'administrer à des personnes immunodéprimées. Or, ces personnes sont particulièrement à risque.
Alors donc, c'est un vaccin vivant atténué basé sur le vaccin contre la rougeole. Encore une fois, donc, je vous rappelle que la rougeole a été administrée en 40 ans à au moins 3 milliards d'enfants à travers le monde, sans aucun effet adverse, et avec une efficacité absolue de protection contre la rougeole pour la vie. Donc c'est aussi quelque chose, c'est un outil très puissant, dont la fabrication industrielle est connue dans tous les pays. En l'occurrence d'ailleurs, sur ce programme, un très très gros industriel indien, en plus des industriels européens, américains, il y a un très gros industriel indien qui a été choisi, celui qui produit les doses de rougeole pour toute l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Inde.
Pour lancer une production à très très grande échelle.
Pour lancer une production en plusieurs dizaines de millions de doses, effectivement, qui va être mise au point pendant l'été. Donc, c'est un vaccin vivant atténué, mais c'est la rougeole, on connaît. C'est un vaccin qui est autorisé pour donner, par exemple, aux personnes infectées par le sida. Mm-hmm. Alors, les très grandes immunodépressions, bien sûr que non, mais c'est très contrôlé. L'utilisation de la rougeole est connue et très contrôlée. Donc, dans ce sens-là, effectivement, on s'assure aussi d'une certaine sûreté et absence de risque.
Professeur Tanguy, j'ai une dernière question. Il nous reste environ une minute. Pourquoi est-ce qu'on entend en ce moment, dans le cadre justement des traitements expérimentaux contre le coronavirus, on entend parler du BCG?
Alors, on entend parler du BCG parce que c'est un vaccin qui, d'ailleurs, comme la rougeole, les vaccins vivants atténués induisent des réponses non spécifiques, des réponses immunitaires innées. Et la rougeole, par exemple, a été montrée en Afrique capable de protéger 60% de la mortalité infantile, toutes causes confondues, entre l'âge de 0 et 5 ans.
Donc, c'est simplement très couvrant. C'est très couvrant.
C'est très couvrant et ça induit des réponses immunitaires non spécifiques très larges.
Une dernière question, si on voit qu'un vaccin marche, est-ce que les autres seront mis entre parenthèses pour accentuer sur ce qui marche ou chacun continuera dans son coin?
Ça, c'est très difficile de dire. Je pense que des pays, en gros, il y aura très certainement les États-Unis versus l'Europe versus la Chine. C'est probable. Chacun utilisant son vaccin pour défendre alors là des intérêts qui pourront être plus nationaux, financiers, etc. Mais là, je ne suis pas du tout placé pour vous répondre à cette question.
Des intérêts qui nous dépassent tous. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, professeur Frédéric Tanguy. Je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur et auteur du livre « Les vaccins pour les nuls », un ouvrage très complet aux éditions First. Notre séance anti-sédentarité, c'est un nouveau rendez-vous dans Priorité Santé. On s'adapte au confinement, aux sorties limitées. Et pour cela, on fait appel à votre savoir-faire. Docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Docteur Sen, médecin du sport, médecin de l'équipe de France de judo. C'est donc notre deuxième séance d'activité physique en temps réel. Comme la semaine dernière, en tenue décontractée. Et du côté du matériel, Jean-Marc, quel équipement aujourd'hui?
Alors, très peu de choses. Il faudra un mur bien dégagé, prendre des chaussures qui accrochent bien et être sur un sol qui n'est pas glissant. Et puis, dégager également une surface où on pourra s'allonger en mettant une petite natte ou un petit tapis de sol.
Alors, la semaine dernière, on a travaillé les muscles des bras, on s'en souvient. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez nous proposer?
Eh bien, je vous propose de travailler les pectoraux, d'une part, et deuxièmement, les fessiers et le rachis lombaire, c'est-à-dire les muscles lombaires.
Je sens qu'on va souffrir, mais dans le bonheur. C'est parti, docteur Sen, vous nous décrivez le mouvement, et après, on se met à bouger en rythme.
Alors, le premier exercice va viser à travailler les pectoraux. On prend donc nos chaussures, on est sur un sol non glissant. On pose les pieds à largeur des épaules, donc écartés à la même largeur que les épaules. On s'éloigne un petit peu du mur, environ 40 cm. On pose les mains sur le mur, à hauteur des épaules, écartées à peu près deux fois la largeur d'épaule. Voilà. On fléchit les coudes pour rapprocher le haut du corps du mur. Et puis, on va faire un mouvement d'extension des coudes et ensuite de flexion. Donc, on va régulièrement s'éloigner, se rapprocher du mur, comme ça, en fléchissant le coude et en l'étendant.
D'accord. Donc on voit, on part, on est à peu près à 30 cm du mur et après on a les bras complètement tendus.
Exactement.
Et c'est parti, on va compter et c'est vous qui allez compter pour nous.
Allez, et bien on commence l'exercice et c'est parti pour une première flexion. Et 1, et 2, et 3 flexions. 4, et 5, et 6. On va jusqu'à 10 pour les débutants. Et 8, et 9, et 10 pour les débutants. Et puis on va continuer. 11, et 12, 13, 14, 15 pour les intermédiaires, on peut s'arrêter. 16, 17, 18, 19, et 20, ça y est.
C'est la récupération ?
La récupération, on y est déjà.
D'accord. Alors pour cette récupération, est-ce qu'on reste complètement inactif, docteur Sen, ou on bouge, on fait quelque chose pour se détendre les muscles ?
On peut balloter les bras pour un petit peu relâcher, bien évidemment, les muscles que l'on a fait travailler et les pectoraux. Et puis, on pense, bien évidemment, à se relaxer. Et à la prochaine session, on verra à bien contracter les abdos pour éviter le cambrage. On va revoir ça tout à l'heure.
Ça veut dire qu'on va faire une nouvelle série ?
Absolument.
Donc, on prend quelques secondes de pause et on vous retrouve. Donc, comme promis, c'est la deuxième série d'exercices pour renforcer. D'ailleurs, on renforce quoi quand on fait ce mouvement contre le mur, docteur Sen ?
Alors, on va renforcer les muscles de la cage thoracique, qui sont devant la cage thoracique. On appelle ça les pectoraux. Et puis, les muscles des bras également. Bien sûr, le triceps, qui est derrière le bras, un petit peu, et un petit peu les deltoïdes. Donc, en fait, c'est les muscles un petit peu du haut du corps. Et ce qui est très important, c'est que pendant qu'on fait cet exercice, il faut toujours bien contracter les abdominaux et les fessiers pour éviter de cambrer le dos. Donc, il faut bien gainer.
Donc, on va repartir. On est donc face au mur, les jambes écartées, j'ai bien noté, à hauteur d'épaule, hein, largeur d'épaule, on va dire. Les bras, au début, sont fléchis, c'est bien ça ?
Sont fléchis, à hauteur des épaules, deux fois la largeur des épaules pour les bras.
Et c'est parti pour on compte à nouveau.
Et on compte à nouveau. Et c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. On fait bien attention lors de la flexion. Et 6, d'avoir les mains qui ne sont pas au-dessus des épaules. Et 8, et 9, et 10. Voilà pour les débutants. On continue pour les autres. Et 11, et 12, et 13. Allez, on lâche pas. Et 14. Et 15, très bien. Et on continue. 16, et 17, et 18, 19, 20. Formidable, bravo.
Et ben, ce qu'on va faire, docteur Sen, si vous le voulez bien, on va laisser les auditeurs récupérer. Mais on leur demande de garder une oreille attentive pour que vous nous expliquiez le deuxième exercice pendant ce temps.
Alors, le deuxième exercice. Là, on va bien sûr travailler les fessiers et le rachis lombaire. On va être allongé sur le dos. On met une nappe au sol, une natte ou alors un petit tapis de sol. Et on va, sur le dos, bien fléchir les jambes. On rapproche en quelque sorte le talon des fesses. On a les pieds qui sont bien posés au sol, bien à plat au sol, et les mains ou sur le ventre ou allongées sur le côté. Et on va lever le bassin vers le haut. On va lever le bassin, bien évidemment, pour essayer de contracter ces muscles à la fois fessiers et puis à la fois lombaires.
Sans appuyer les bras contre le sol, j'imagine.
Voilà, alors sans appuyer les bras contre le sol, bien sûr, on va vraiment s'aider du bassin et des muscles du dos et des fessiers pour lever le bassin. Ce qui est très important, c'est de bien contracter aussi là les abdos et les fessiers.
Et je sens que ça va faire mal.
Voilà, alors on va répéter l'exercice plus lentement. On va faire vraiment l'exercice très lentement pour pas faire de mouvements brusques. Et si jamais il y a des douleurs au niveau du dos, on peut simplement maintenir la position haute sans bouger le bassin pendant toute la durée du décompte que l'on va réaliser.
Alors on y va, on se lance, vous nous aidez à garder le rythme en comptant, allez-y docteur Sen.
Et 1, on lève, et 2, on redescend, 3, on lève, 4, on redescend. 5, on lève. 6, on redescend. On respire bien surtout. 7, on lève. 8, on redescend. Vraiment, il faut respirer dans le mouvement. 9, on lève. 10, on redescend. Allez, on va continuer pour le moyen. 11, on lève. 12, on redescend. Et on souffle bien.
Et moyen, moyen, c'est déjà 13, fort.
13,
hein.
On lève. 14, on redescend. 15, on lève. 16, on redescend. Encore 2 pour l'effort.
Non, mais c'est fini.
17.
Allez, on continue.
On lève.
Vous avez tué les auditeurs, ça va pas du tout. Hein.
On redescend. 19, on lève. Et 20, on relâche.
Et là, on souffle. Et là, je sais faire. On souffle bien. On reprend des forces. On se soulage les membres. Comment on fait là? On est complètement
absolument
à plat. Qu'est-ce qu'on fait, docteur?
On est totalement à plat. On peut vraiment bien respirer. On peut essayer de bouger légèrement son dos, un petit peu à la façon reptilienne, comme ferait un petit serpent, en bougeant horizontalement son bassin pour bien relâcher un peu les muscles de son dos, comme ça. Et puis allonger une jambe puis l'autre. Vraiment, on essaye de se relâcher là totalement. Ce qui est très important, c'est que cet exercice ne doit pas faire mal. Pour qu'il ne fasse pas mal, il faut bien contracter ses abdos et ses fessiers. Et puis surtout, il faut bien respirer, bien
relâcher. Si on coupe, là, ça fait mal.
Voilà, si on coupe la respiration, là, ça va faire mal. Il faut faire un mouvement également très doux, très régulier. Il ne faut vraiment pas le faire brusquement.
Et on a bien compris, on est là pour se faire du bien. Donc ceux qui sont déjà fatigués, ils peuvent arrêter. Par contre, ceux qui ont envie de faire une deuxième session, on va peut-être partir avec vous, si vous le voulez bien.
Eh bien, allons-y. Allez, et c'est parti. Et 1, on lève le bassin. Et 2, on redescend en soufflant. 3, on lève. 4, on redescend. 5, on lève. 6, on redescend. 7, on lève. 8, on redescend. 9, on lève. Et 10, on redescend. On souffle bien. Allez, encore un peu. 11, on lève. 12, on redescend. 13, on lève. 14, on redescend. On va faire une petite variante. 15, on lève et on tient. On tient en haut. 1, 2, 3, 4 et 5, on relâche.
Vous êtes dur, hein, vous êtes dur. Là,
voilà. Formidable, bravo, bravo.
On entend, je sais pas, moi je suis toute seule dans mon studio, donc je vais le faire quand même. Bravo à tous ceux qui ont tenu. Et on vous dit merci beaucoup, docteur Sen. On se donne rendez-vous lundi prochain. J'ai bien peur qu'on soit toujours dans la même situation, donc on va dire à lundi prochain, c'est la seule bonne nouvelle.
Avec plaisir, lundi prochain.
Et d'ici là, on continue de bouger, on garde le rythme, on garde surtout le moral. Et on vous remercie, docteur Sen, le nouveau coach de Priorité Santé. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Et merci à toute l'équipe, à Cétoussamaki, Ophélie Lassène, Didier Bleu, Laurie Plisson. Demain, on va parler de la prise en charge des autres pathologies en période épidémique. Continuité des soins, diabète, cancer, maladies neurologiques, même soigner ses dents. Hein. À demain, d'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains et si vous êtes en zone de confinement, restez chez vous.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Banque Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous, à chaque étape.
Autour de la question.